Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui vous donne des clés pour comprendre l'économie mondiale. Et aujourd'hui, celui qui va nous ouvrir des portes est un économiste mondialement reconnu. Nous sommes ravis d'accueillir Thomas Piketty. Il est ici dans les studios de RFI. Cette semaine, le grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Il vient de publier un nouvel ouvrage, Une brève histoire de l'égalité, aux éditions du Seuil. Cette question des inégalités dans le monde, tellement d'actualité, vous y consacrez l'essentiel de vos travaux. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, professeur à l'école d'économie de Paris et co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
Avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Bruno.
Nous allons vous interroger sur les thèses de votre livre qui replace cette thématique de l'égalité dans une perspective historique et internationale. Les problématiques africaines y sont extrêmement présentes. Comment réparer des siècles de politique basées précisément sur les inégalités? Nous vous poserons aussi quelques questions sur l'actualité économique dans le monde et notamment en Afrique. Cette émission, vous pouvez la retrouver et la commenter sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter en tapant ces deux mots RFI Écho. Thomas Piketty, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Une phrase pour résumer votre livre. La marche vers l'égalité est un combat qui vient de loin. Alors on ne va pas refaire toute l'histoire dans une émission de radio, mais expliquez-nous en quelques mots ce qui est, selon vous, le plus efficace dans les sociétés humaines pour réduire la fracture entre les riches et les pauvres. Est-ce qu'il faut impérativement passer par les armes, par des révolutions, ou est-ce qu'une autre voie est possible ?
Alors déjà, les révolutions, ça peut être pacifique, enfin relativement pacifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je documente dans ce livre un mouvement général vers l'égalité qui commence principalement, disons, depuis la fin du XVIIIe siècle. Et il y a deux événements fondateurs qui sont la Révolution française d'une part, la révolte des esclaves à Saint-Domingue d'autre part. Et ces deux événements, qui sont évidemment étroitement liés, marquent à leur façon le début de la fin des sociétés de privilèges d'un côté et puis des sociétés esclavagistes et coloniales de l'autre. En même temps, on voit bien sur ces deux exemples à quel point la marche vers l'égalité est loin d'être terminée. C'est-à-dire que des privilèges, il en existe toujours en France, mais dans tous les pays, les plus riches vont financer les campagnes politiques, financer des think tanks. Enfin, l'égalité véritable des droits politiques démocratiques, on en est encore très loin. Et alors, quant aux inégalités nord-sud, aux inégalités raciales, aux inégalités liées aux discriminations, on est loin du compte. Mais il y a un mouvement général, parce qu'il y a cette demande d'égalité très très forte qui se manifeste à l'intérieur des sociétés, qui se manifeste au niveau international, et qui a eu des débouchés, alors pas seulement avec l'abolition des privilèges de la noblesse ou l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle, mais aussi au cours du XXe siècle, les indépendances qui participent de cette marche vers l'égalité et qui n'arrivent que finalement à l'échelle de la longue durée, il y a seulement 50 ans, et même si on prend l'apartheid en Afrique du Sud, les années 90, donc c'est vraiment avant-hier par rapport à la perspective de long terme que j'étudie. Et puis, il a fallu le XXe siècle pour le développement de systèmes de sécurité sociale, d'impôts progressifs, un début de commencement de marche vers l'égalité des genres, l'égalité femmes-hommes, qui reste encore balbutiante. Donc, sur tous ces terrains, j'essaye dans ce livre à la fois de ne pas dissimuler les difficultés, les luttes, les combats qui permettent d'aller vers l'égalité, mais en même temps, c'est quand même un livre optimiste parce que je documente sur le fait que sur le long terme, voilà, c'est un mouvement qui vient de loin, qui passe par des révoltes, qui ne se passe pas toujours de façon parfaitement paisible, mais qui a surtout besoin de débouchés institutionnels pour changer les règles.
Alors justement, ce qui se passe aujourd'hui, le G20 par exemple, c'est cet impôt mondial sur les richesses des multinationales, ça c'est une révolution pacifique, une révolution douce, on pourrait dire ça.
Alors, bon, déjà, ça montre qu'il se passe des choses, que les choses ne sont pas figées comme certains voudraient le prétendre. Après, puisque vous me parlez de cette mesure précise, il y a d'énormes limites. La première, c'est que le taux de 15% est complètement insuffisant. Enfin, on peut en reparler, mais c'est vraiment très très insuffisant. Mais le plus grave, c'est même pas ça. Le plus grave pour moi dans cette histoire, c'est que ça a été vraiment un partage entre pays riches à l'intérieur des pays du Nord. En gros, on a pris des recettes de multinationales qui sont actuellement basées dans les paradis fiscaux, et les pays du G20, les pays les plus riches surtout, se sont partagés les recettes sur des critères qui ne laissent que des miettes aux pays du Sud. Et donc pour moi, c'est ça le vraiment là où on est passé complètement à côté de la plaque pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a besoin de trouver des règles de répartition. Donc il faut prendre le nombre de personnes salariées directement ou indirectement, parce que des fois il y a beaucoup de sous-traitance dans des pays du Sud. Il faut pas prendre la masse salariale, parce qu'évidemment la masse salariale, vous allez avoir des personnes sous-payées dans les pays du Sud, donc vous allez dire ah bah la masse salariale est toute petite, hop on vous alloue une toute petite partie des
donc
profits.
Sauf que c'est le contraire.
Oui c'est ça, parce que oui sur cet exemple là, vous voyez bien que c'est le contraire. C'est justement parce qu'on paye très très mal des personnes au Sud qu'on va générer des profits immenses qui après sortent. Vous savez les profits sortants d'Afrique sont 4 fois plus élevés que les flux d'aide internationale. National entrant. Donc, il faut prendre la population. Moi, je pense qu'à un moment, alors peut-être pas sur la totalité des recettes, mais je pense qu'au moins sur une partie des recettes fiscales qui reposent, disons, sur, de façon générale, sur les acteurs économiques les plus prospères de la planète, à la fois sociétés multinationales et milliardaires de la planète, je pense qu'une partie, au moins, des recettes provenant de ces acteurs-là devraient être réparties entre tous les pays du monde en fonction de la population. Pourquoi ? La première raison, elle est simple, c'est qu'il y a, il devrait y avoir en tout cas un droit minimal égal pour chaque personne de la planète au développement, d'accès à l'éducation, à la santé. Bon, quand on parle des vaccins, Covid, tout le monde voit bien que c'est une personne un vaccin, on peut pas faire autrement. Mais c'est plus général que ça. C'est-à-dire que l'accès à la santé de base, l'accès à l'éducation de base, et ce droit minimal, il doit passer par ce droit à une partie des recettes fiscales.
Voilà déjà une première solution. Une question de Julien Clémenceau.
Donc on était en train de le dire, dans les pays du Sud et en Afrique notamment, les inégalités demeurent très importantes. Est-ce que les réduire doit être la première des priorités, ou est-ce que dans ces pays-là, indépendamment des impôts mondiaux qu'on pourrait mettre en place, il ne faut pas d'abord chercher à produire de la richesse avant de la partager ?
Alors, historiquement, il faut faire les deux à la fois. C'est-à-dire, historiquement, la prospérité vient de l'égalité. Moi, je veux vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée qu'il faudrait attendre d'être riche pour réduire les inégalités, en fait, on ne devient jamais riche dans l'inégalité. C'est-à-dire que ce que je montre dans ce livre, en comparant différentes sociétés dans l'histoire, c'est que si on prend, par exemple, un pays comme les États-Unis, qu'on voit aujourd'hui comme très, très inégalitaire et qui est effectivement devenu plus inégalitaire que l'Europe. En fait, entre 1930-1980, les États-Unis étaient relativement plus égalitaires que l'Europe, avait par exemple un système d'imposition où le taux supérieur s'appliquant aux revenus les plus élevés de millionnaires d'aujourd'hui était de 80-90% en moyenne de 1930 à 1980. Non seulement ça n'a pas tué le capitalisme états-unien à l'époque, les États-Unis étaient au contraire dans une position de productivité, de domination économique. Pourquoi ? Parce que en fait, à ce moment-là, les États-Unis avaient une avance éducative sur l'Europe, le Japon. C'est-à-dire on l'oublie parfois aujourd'hui, mais dans les années 1950, vous avez 90% d'une classe d'âge aux États-Unis qui va au lycée, alors qu'au même moment, c'est 20-30% d'une classe d'âge en Allemagne, en France ou au Japon. Et il faut attendre les années 80-90 pour que le reste des pays occidentaux rattrape, et le Japon rattrape les États-Unis, et d'ailleurs rattrape aussi le niveau de PIB par habitant. Donc, la conclusion générale, c'est que la prospérité vient plutôt de l'égalité. Alors, l'égalité, ça ne veut pas dire l'uniformité complète. Vous pouvez avoir besoin d'écarts de revenus ou de fortune de 1 à 4, de 1 à 5, certains diraient de 1 à 10, bon, je pense que c'est plutôt de 1 à 4 ou de 1 à 5, mais en tout cas, c'est pas de 1 à 50 ou de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Ça, toutes les données historiques dont on dispose montre que ça, non seulement ça ne sert à rien, mais ça a plein d'aspects nuisibles pour la stabilité politique. Et puis aussi parce qu'en fait, je l'ai dit sur le cas de l'éducation, mais c'est plus général que ça. On a besoin de la participation économique, sociale, politique de toute la population pour créer la prospérité. Donc, pour résumer, les niveaux d'inégalité qu'on observe aujourd'hui en Afrique, quand on essaye d'exploiter non seulement des données d'enquête qui ont tendance un peu à sous-estimer le haut de la distribution, mais qu'on essaye d'exploiter des données fiscales. On a essayé de le faire avec certains de mes collègues, Denis Cognot par exemple, en Côte d'Ivoire. On a des projets au Sénégal, au Mali. On trouve des niveaux d'inégalité qui sont sans doute sous-estimés d'ailleurs par les données dont on dispose, mais qui sont très très élevés en comparaison internationale et qui sont trop élevés.
Du niveau des États-Unis ?
En tout cas plus proche des États-Unis que de l'Europe, ça certainement. Et voire dans certains pays plus élevés que les États-Unis. En tout cas, toutes les comparaisons internationales qu'on peut faire suggèrent que ce type de niveau d'inégalité n'a absolument jamais dans l'histoire été nécessaire ni même favorable au développement.
Thomas Piketty, vous avez déjà évoqué trois fois le mot éducation. Alors pour illustrer notre propos, je voudrais que l'on écoute deux brefs témoignages enregistrés au Maroc par Amélie Tullet du service Afrique de RFI. Dans ce pays qui est particulièrement concerné par les inégalités, elle a rencontré Ahmed. Il est étudiant à la faculté publique de Kenitra et Latifa. Elle est retraitée, ancienne salariée du Haut Commissariat au Plan. Latifa se dit financièrement aisée. Ahmed, pas du tout. Deux regards sur l'éducation publique.
Je suis un fils d'une personne qui n'a pas d'argent pour financer des études. C'est difficile. Il y a aussi un problème que les gens, après de l'obtention des diplômes, il n'y aura pas des opportunités de travail, par exemple.
Ma fille, elle a fait ses études dans une école privée. Puis après, elle était partie en Chine pour faire ses études de médecine. Une fois terminée, elle est rentrée. Elle n'a même pas pensé à revenir au Maroc. Tout de suite, elle est partie avec son mari en Belgique. Ils ont trouvé du travail facilement. Ils sont là-bas.
Pour vous, c'était pas envisageable de mettre votre fille dans l'école publique ?
Non. Je n'ai plus confiance à l'école publique. Je crois que ça, c'est pas seulement au Maroc. C'est presque partout dans le monde. Les parents aisés n'acceptent pas que ses enfants aillent à l'école publique.
Thomas Piketty, deux angles de vue, mais un même constat. L'éducation publique est en crise et elle est plus que jamais source d'inégalités.
Oui, alors c'est toujours compliqué dans l'histoire de tous les pays de construire la confiance dans un État en général et en particulier dans un système public d'éducation. C'est possible, beaucoup de pays y sont arrivés, donc il faut y arriver, on peut y arriver. Mais c'est un processus qui demande d'abord un très grand effort en termes de transparence dans la façon dont l'argent est alloué et dans la façon dont l'argent qu'on utilise est collecté. Donc ça, en particulier la question de la justice fiscale est vraiment centrale. C'est-à-dire si au cours du XXe siècle, des pays comme la Suède, mais aussi l'Allemagne, la France, les États-Unis ont réussi à multiplier par 10 les ressources publiques consacrées à l'éducation. Tous ces pays, avant la Première Guerre mondiale, dépensaient moins de 0,5% de leur revenu national en éducation. C'était des systèmes éducatifs extrêmement élitistes, extrêmement limités. Aujourd'hui, on est à 6% du revenu national, donc ça a été multiplié par 10 en un siècle. Comment ça s'est fait? Pourquoi ça s'est fait? Ça s'est fait aussi avec de la justice fiscale, des impôts progressifs permettant de convaincre les classes moyennes, les classes supérieures que oui, on demande à tout le monde de contribuer, mais on demande encore plus aux plus aisés. Et ça, vous voyez qu'actuellement en Afrique, c'est quand même un des problèmes. C'est-à-dire qu'avec le système, de façon générale, de libre circulation des capitaux qu'on a depuis les années 80-90, où vous avez comme ça construit un système international, alors venant des pays du Nord au départ, notamment de l'Europe d'ailleurs, mais qui s'est ensuite imposé à l'échelle planétaire, et notamment en Afrique, vous avez construit un espèce de droit quasi sacralisé de faire fortune en utilisant les infrastructures d'un pays, son système éducatif, son système de santé, et ensuite vous appuyez sur un bouton, vous transférez les fonds dans une autre juridiction et rien n'est prévu pour vous suivre à la trace et vous faire contribuer simplement en proportion de votre enrichissement. Et je pense qu'on n'arrivera pas à construire plus de confiance dans les services publics, dans la puissance publique, dans l'État en général, si on n'a pas cet effort au niveau international allant vers plus de justice fiscale.
Julien Clémenceau.
De la justice, on peut peut-être en avoir de manière très pragmatique, en mettant d'abord l'argent sur l'éducation primaire et secondaire, et pourquoi pas en acceptant une certaine privatisation avec une éducation sous contrat, une éducation privée sous contrat pour le supérieur, parce que le supérieur, ce sont d'abord les enfants de riches qui y vont et qui font les études les plus longues. Et donc on pourrait consacrer cet argent d'abord à la massification et à l'enseignement primaire et secondaire.
Oui, sauf que je pense que vous avez raison en termes de priorité sur le primaire et le secondaire, mais je pense qu'en fait, dans une certaine mesure, c'est quand même possible de faire aussi de tout faire, c'est-à-dire que les sommes dont on parle, vous savez, les budgets éducatifs aujourd'hui dans le Sahel ou en Afrique centrale ou dans l'Asie du Sud sont des sommes qui, à l'échelle internationale, sont des sommes tellement faible, enfin, par rapport à ce qu'on est capable de dégager comme montant dans les pays du Nord face au Covid. Enfin, si vous voulez, je pense qu'à long terme, il y a un espèce d'aveuglement collectif qui est terrible. Et c'est pour ça que je pense que si on veut sortir de la logique d'aide internationale, enfin, de soi-disant aide internationale, parce qu'on a une façon de prétendre aider les pays qui, en réalité, rapportent, puisqu'on a des flux de profits sortants qui sont, je le répète, 4 fois plus élevés que les flux d'aide entrants. Voilà, on a besoin de changer ce système radicalement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut passer à une logique de droit qui passe, je reviens quand même là, aux recettes fiscales, parce que c'est ça qui est important, d'avoir un droit à des ressources. Et une petite fraction seulement des recettes pesant sur les acteurs les plus puissants de la planète permettrait de faire beaucoup. Alors après, je comprends qu'un gouvernement qui lui n'a pas accès à ses ressources et se retrouve avec un budget extrêmement limité peut être obligé de faire le type de choix que vous décrivez. Mais collectivement, au niveau international, on se tire une balle dans le pied et on crée les conditions d'affrontement à venir. C'est-à-dire que la question du développement, la question migratoire, la question du réchauffement, enfin tout ça, ce sont des questions qui nous concernent tous. Et j'ajoute qu'il n'y aurait jamais eu d'enrichissement occidental ou d'enrichissement tout court. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de pays riches sans pays pauvres. C'est-à-dire que tout l'enrichissement de la planète, c'est-à-dire tous les acteurs de la planète qui aujourd'hui ont des richesses, toutes ces richesses, par définition, viennent d'un système de division internationale du travail, d'exploitation à l'échelle internationale de ressources naturelles, de ressources humaines. Si le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ou les États-Unis avaient dû s'industrialiser tout seul, enfin, où est-ce qu'ils auraient récupéré leur coton, où est-ce qu'ils auraient récupéré... Enfin, toutes les ressources nécessaires à ce processus se sont inscrites dans un cadre international. Et il est temps... Voilà, aujourd'hui, vous voyez, on continue au pays du Nord, il y a des réfugiés qui arrivent en Afghanistan. On dit, oh là là, mais ça, c'est très loin, ça concerne les pays voisins, nous, ça ne concerne pas. Quand il y a de l'uranium, ça nous concerne tout de suite. Et les compagnies occidentales, elles sont là immédiatement, ça peut être à l'autre bout de la planète, on est là tout de suite. Donc voilà, le degré d'hypocrisie est insupportable.
Thomas Piketty, vous avez commencé à l'aborder, cette question de l'attitude des gouvernements dans les pays africains. Ce problème de la marche vers l'égalité, il pose la question essentielle du rôle des élites économiques et politiques. Est-ce qu'elles sont prêtes à accompagner le vent de l'histoire? J'ai posé la question à Carlos Lopez, qui est un économiste bissau-guinéen de renommée mondiale, professeur à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Les élites ont-elles entravé le mouvement vers l'égalité?
Il faut voir dans une perspective historique, parce que nous savons que c'était les élites qui étaient derrière les mouvements de libération, le mouvement nationaliste était en quelque sorte une façon aussi de lutter contre les inégalités, pouvoir donner de la dignité, des opportunités à ceux qui n'en avaient pas. Mais par la suite, nous avons eu la construction des États modernes post-indépendance qui étaient en grande partie tributaires de ce qu'ils ont hérité en termes de structure économique, la façon dont la société était, disons, en relation avec le pouvoir et le droit en particulier. Et donc nous avons vu des difficultés énormes, la plupart de ces pays, pour s'adapter à le discours égalitaire, le discours nationaliste, à la réalité de ce qu'ils avaient, disons, en termes de capacité de transformation. Et cette difficulté s'est transformée petit à petit dans une accommodation qui a amené les élites à vouloir plutôt faire survivre les structures qu'ils avaient en main plutôt que de les transformer. Et donc, ce qu'on assiste actuellement, c'est une transformation timide dans certains pays de la structure de l'économie, une préoccupation pour réduire l'inégalité qui vient de la pression sociale, mais pas suffisamment pensée, pas suffisamment centrée en termes de politique économique.
Thomas Piketty, comment vous réagissez à ces propos de Carlos Lopez? Les élites ont tout gâché?
Oui, alors on peut pas attendre des élites que volontairement, elles acceptent de réduire leur train de vie par 2, 3 ou 4. C'est-à-dire, ce sont des combats politiques qui doivent être menés et qui, si les pays qui ont réussi à réduire les inégalités historiquement, à nouveau l'ont fait avec des révolutions ou simplement des mouvements politiques, des mouvements syndicaux, des mouvements socialistes, travaillistes. Vous savez, il faut pas s'imaginer, c'est pas une question de culture où certains pays seraient éternellement voués à avoir des élites corrompues, inégalitaires, alors que d'autres seraient éternellement vertueux. En Suède, jusqu'en 1910 en Suède, vous aviez un système électoral où les plus riches avaient 100 droits de vote, les gens un peu moins riches avaient un droit de vote, et puis tous les autres avaient 0 droit de vote, les femmes évidemment avaient 0 droit de vote. Les entreprises avaient le droit de voter dans les élections municipales en Suède en 1910. Donc c'était tout sauf vertueux. Vous voyez un peu aussi l'imagination institutionnelle des élites pour asseoir leur domination. Aujourd'hui, personne n'oserait faire ça, hein, même en Afrique ou nulle part, personne n'oserait mettre en place un système institutionnel comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un mouvement syndical, un mouvement social-démocrate qui a pris le pouvoir de façon finalement assez pacifique, même s'il y a eu une confrontation des rapports de force sociaux qui se sont établis, qui a pris le pouvoir en 1932, qui l'a conservé pendant un demi-siècle et qui a mis la capacité étatique du pays, qui avant était utilisé, on enregistrait les fortunes pour les protéger, pour distribuer les droits de vote. On s'est mis à enregistrer les revenus, les fortunes pour faire payer des impôts, pour financer un système d'accès à l'éducation, à la santé, beaucoup plus, qui est pas parfait, mais qui est beaucoup plus égalitaire que tout ce qui a été fait, tout ce qui avait été fait avant. Et en quelques décennies, un pays qui était profondément inégalitaire avec des élites extrêmement vraiment aux commandes du système. Donc voilà, tout ça pour dire
ça
que
ça paraît réalisable en Afrique.
Alors, ça va être d'autres configurations, ça va être d'autres luttes. Il s'agit pas de reproduire, mais je prends quand même cet exemple parce que parfois on invente comme ça des cultures égalitaires. Voilà, les Suédois seraient égalitaires depuis les Vikings, et puis les Indiens seraient inégalitaires depuis les castes. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça.
C'est-à-dire que faut pas se résigner.
Les mobilisations politiques. Mais alors, il faut des organisations collectives et puis il faut des systèmes fiscaux. C'est-à-dire que ça va pas se faire. Oui, la réduction des inégalités, à nouveau, c'est l'impôt progressif avec des taux très élevés sur les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, et qui a fait le job au XXe siècle. Une complication supplémentaire, évidemment, en Afrique, c'est qu'on a l'option migratoire, c'est-à-dire l'option de partir, de transférer son argent. Et c'est là qu'il y a une responsabilité des pays du Nord. C'est-à-dire, il faut que ce soit une coproduction. Enfin, le développement a toujours été une coproduction, mais là, disons que voilà, il y a cette dépendance est très très importante.
Alors, Julien, on va rester sur le sujet des élites. On connaît votre critique chiffre à l'appui de la théorie du ruissellement, qui voudrait qu'en offrant des avantages à certains, ça puisse profiter à l'ensemble de la population. Mais est-ce qu'on peut faire autrement dans un pays africain pour attirer des investissements quand l'environnement des affaires présente de nombreux risques de nature à les décourager?
Pour un gouvernement individuel, très souvent, on est obligé de faire des compromis de la nature que vous indiquez. Donc moi, je suis pas là pour donner des leçons et dire « Ah, il faut refuser ça, vous pouvez pas accepter ces conditions ». Mais néanmoins, je pense qu'à un moment, c'est important de lever le nez un peu du guidon et de se dire « Bon, voilà, c'est peut-être les gouvernements individuels sont obligés d'accepter des choses, des compromis pour attirer un peu de ressources. Mais collectivement, ce système nous mène dans le mur. Parce que le problème du développement, du sous-développement, de la croissance démographique en Afrique, tout ça, ce sont des défis dont finalement, le coût qu'il y aurait à payer aujourd'hui pour sortir de ce mauvais équilibre, d'avoir plus de ressources pour investir dans l'avenir, dans les nouvelles générations, dans les infrastructures, est très largement inférieur aux bénéfices que ça rapporterait. Donc je veux vraiment insister sur le gâchis énorme qu'on a là. Après, sur la question des incitations, à nouveau, moi je prétends pas que aucune inégalité soit nécessaire, des écarts raisonnables de revenus ils peuvent tout à fait se justifier dans l'histoire, mais pas le type d'écart vertigineux qu'on s'est mis.
Ce que vous préconisez dans votre livre, c'est le retour de l'État dans l'économie. Mais la difficulté en Afrique, c'est que les États lèvent peu l'impôt, et c'est une fiscalité essentiellement indirecte.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, la construction des États européens, ça s'est étalé sur des siècles et des siècles. C'est-à-dire, j'en rappelle aussi les grandes lignes dans le livre. C'est-à-dire que il y a eu un premier passage, mettons, de 1500 à 1800, où le poids de l'État était peut-être d'à peine 2% du revenu national en 1500, est passé à 6-8% en 1800, a surtout servi, en fait, à financer la police, l'armée, et puis l'expansion coloniale dans ce qui a suivi, la supériorité militaire occidentale sur les États ottomans, chinois, qui eux étaient restés à 2 ou 3% du revenu national. Et puis au XXe siècle, vous avez une nouvelle phase qui est la construction de l'État social, où là on passe avant la Première Guerre mondiale à moins de 10% du revenu national en impôts, à aujourd'hui 40-50%. Et c'est cette phase-là qui s'est accompagnée d'une poussée éducative, d'une poussée sur les systèmes de santé, d'impôts progressifs, et qui a permis à la fois plus d'égalité, plus de prospérité. Mais vous voyez qu'avec ce résumé rapide, que tout ça s'est fait sur des siècles. Donc là maintenant, quand on dit, on va résoudre ça en Afrique en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, évidemment, on met la barre très très haut. Néanmoins, on ne va pas attendre 3 siècles ou 4 siècles. Donc, il est normal de mettre la barre haut, mais il faut bien réaliser tout ce que ça implique. C'est-à-dire, pour réussir à faire ça beaucoup plus vite, sans passer par les drames terribles, enfin les guerres, les destructions, enfin, de tout ce qui a marqué cette période-là, les exploitations coloniales notamment, qui ont accéléré aussi cet enrichissement et qui ont, dans une certaine mesure, permis cet enrichissement, on est obligé de réfléchir à une organisation du système économique qui soit beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus redistributive que celle qu'on a aujourd'hui.
Une brève histoire de l'égalité, le nouveau livre de Thomas Piketty. Il est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, émission que vous retrouvez en vidéo sur le site de RFI à la page Éco d'ici, Éco d'ailleurs et sur celui de Jeune Afrique. On continue avec une nouvelle question de Julien Clémenceau.
Thomas Piketty, en fin de semaine prochaine, Montpellier accueillera un nouveau sommet Afrique-France. Emmanuel Macron parlera notamment à la jeunesse africaine. Partagez-vous les critiques formulées par certains Africains qui accusent encore Paris de ne privilégier dans sa relation avec le continent que ses intérêts ?
Oui, je crois que de façon générale, la France, mais je dirais la France n'est pas forcément pire que les autres pays occidentaux, mais les pays occidentaux, les pays du Nord, font preuve d'une immense hypocrisie vis-à-vis de l'Afrique. Mais de façon générale, disons, on a tendance à organiser le système économique mondial dans des relations centre-périphérie, où on a des zones périphériques qu'on va utiliser pour certaines ressources, etc., où on va ensuite tenir un discours sur l'aide qui correspond pas du tout à la réalité par rapport aux flux qu'on fait sortir de ces pays, par rapport aux flux qu'on entre, c'est quelque chose qui n'est pas propre non plus aux relations France-Afrique. C'est-à-dire que vous prenez à l'intérieur de l'Europe les pays d'Europe de l'Est que l'Europe de l'Ouest prétend aider grassement de façon généreuse. En fait, si vous regardez les flux de profits sortant de Hongrie ou de Pologne, notamment allant vers des entreprises allemandes, mais aussi françaises en partie, en fait, ces flux sortants, en pourcentage du PIB, vont représenter 7-8% du PIB par an sur les 15 dernières années en Pologne et en Hongrie, c'est-à-dire deux fois plus que les flux entrants de fonds régionaux européens, qui sont pourtant eux-mêmes autrement plus importants que l'aide vis-à-vis de l'Afrique. Donc c'est pour dire que, de façon générale, les gagnants du système économique, les puissances économiques dominantes, ont tendance à se donner le beau rôle, c'est-à-dire qu'à la fois à accumuler des ressources, tout en prétendant être ceux qui aident ceux qui sont incapables de se développer.
Est-ce que Emmanuel Macron en la matière a pas fait des progrès par rapport à ses prédécesseurs ? Est-ce qu'il n'y a pas un renouveau de la relation entre l'Afrique et la France ?
Renouveau déjà d'avoir quelqu'un de plus jeune qui est né après les décolonisations, tout ça. Bon, c'est vrai que ça renouvelle, mais franchement, moi, ça me semble. Et puis quelques œuvres d'art qui reviennent en Afrique, bon, c'est mieux que d'en avoir aucune. Mais je pense qu'on est vraiment dans le cosmétique. C'est-à-dire que le problème, si vous voulez, c'est que la philosophie économique d'Emmanuel Macron, c'est celle de quelqu'un qui a grandi comme jeune énarque, jeune banquier d'affaires à la fin des années 90, début des années 2000, il y a une vingtaine d'années, et c'est comme ça qu'il s'est construit. Et il continue d'être quand même dans cette espèce de pro-business, pro-libéralisation des flux de capitaux, suppression de l'impôt sur la fortune. Enfin, je pense qu'il est en partie sincèrement convaincu que tout ça va suffire pour faire l'harmonie universelle. Donc vis-à-vis de l'Afrique, bon, il faut prendre tout ça en compte avant de trop s'enthousiasmer.
Je voudrais qu'on revienne à cette histoire coloniale, l'héritage esclavagiste, la traite négrière. Et il y a une question très actuelle, celle des réparations financières, et elle se pose notamment aux États-Unis. Bonjour David Thompson.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos correspondants. Depuis près de 30 ans, la question est discutée au Congrès américain sans grand succès, mais le débat s'est accéléré après la mort de George Floyd, le mouvement de protestation emmené par Black Lives Matter pour plus de justice sociale pour les Noirs. Juste après son arrivée à la Maison Blanche, l'administration Biden, qui a été élu grâce au vote noir, se disait favorable à une indemnisation des descendants d'esclaves. David, quelles sont les pistes envisagées pour réparer cette inégalité historique ?
Eh bien, quand Joe Biden est arrivé au pouvoir, il s'est dit favorable à une commission chargée de déterminer en quoi l'esclavage depuis 1619, mais aussi les politiques ségrégationnistes après 1865, ont structurellement enraciné des inégalités qui persistent encore aujourd'hui entre blancs et noirs aux États-Unis. Cette commission pourrait ensuite recommander des dispositifs d'indemnisation pour les descendants d'esclaves, et ces indemnités prendraient la forme de compensation financière directe. Il s'agit d'une vieille revendication afro-américaine. La première fois que cette proposition de loi a été déposée devant le Congrès, c'était en 1989. Au printemps dernier, la Chambre l'a approuvée, mais depuis, ce vieux débat semble à nouveau marquer le pas. Bruno, cette question des réparations, il faut dire, n'est pas très populaire au sein de l'opinion. Seuls 29% des Américains soutiennent des paiements directs, selon un sondage AGP de 2019, avec une forte disparité raciale. 74% des Afro-Américains se disent pour, contre à peine 15% des Blancs. Enfin, politiquement, côté républicain, cette question des réparations est un vrai repoussoir. On le sait, la marge de manœuvre de Joe Biden est très limitée, avec une très courte majorité au Congrès.
Oui, quelques avancées timides localement. Merci David Thompson, Thomas Piketty. La marche vers l'égalité est en cours, on pourrait dire ça, aux États-Unis, même si les inégalités se creusent encore.
Oui, cette question des réparations, vous savez, elle avait été posée à la fin de la guerre de sécession en 1864, début 1865. Les armées du Nord des États-Unis avaient promis aux Noirs, qu'après la victoire, chaque Noir, chaque ancien esclave aurait 40 acres de terre et une mule, et qui n'ont jamais été donnés. En fait, sitôt la victoire obtenue, le Congrès états-unien et les nordistes ont complètement oublié cette promesse, et vous savez, le réalisateur afro-américain Spike Lee en a fait le nom de sa maison de production, 40 Acres and a Mule, justement pour se moquer un peu de cette hypocrisie des nordistes. Ce débat, je pense, va continuer. Il y a le cas différent, mais quand même intéressant, des Japonais américains, vous savez, qui avaient été internés pendant la Seconde Guerre mondiale, de façon complètement inique, hein, qui ont passé deux ans, trois ans internés, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec l'attaque du Japon sur les États-Unis à Pearl Harbor. Pendant des décennies, on a dit, c'est trop compliqué une réparation. En 1988, le Congrès états-unien a voté une loi de réparation donnant 20 000 $, puis 30 000 $ pour chacun des Japonais américains qui avaient été internés. Bon, en dollars d'aujourd'hui, ça serait plutôt à 50 000 $, 60 000 $. Bon, c'est pas immense, mais c'est pas rien du tout. Au début de l'année 2021, la ville d'Evanston, dans l'Illinois, près de Chicago, a voté et a appliqué en fait une loi d'indemnisation pour les descendants afro-américains d'esclaves, un peu du même type, avec une somme de l'ordre de 25 000 $, je crois, qui prend cadre dans le cadre d'un projet d'investissement, d'achat d'un logement ou d'investissement d'une entreprise. Donc il y a une condition qui est mise à l'utilisation de la somme, mais c'est un dispositif qui n'est pas complètement différent de celui de la loi de 88. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas juste dans la théorie. On parle de dispositifs qui ont eu lieu, et je pense que ces débats continueront de se poser. Alors il y a d'autres cas comme celui de la France vis-à-vis d'Haïti où je pense que la question se pose de façon encore plus évidente.
Question justement de Julien Clémenceau à ce sujet.
Justement, vous avez donc tout un passage dans votre ouvrage sur Haïti. En 1825, Haïti s'est fortement endetté, a payé une dette jusqu'en 1950 pour rembourser les propriétaires d'esclaves. Et là vous dites la question de l'indemnisation d'Haïti, de la réparation se pose.
Oui, elle se pose de façon évidente, je pense, pour ceux qui examinent un peu les faits. Et moi, je veux dire, j'ai vraiment essayé dans ce livre de faire du factuel, de bien documenter les choses. Ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que, en 1825, effectivement, l'État monarchique français accepte de reconnaître l'indépendance d'Haïti à une seule condition, c'est que Haïti verse une somme gigantesque, qui représente à peu près 3 années de production d'Haïti en 1825, on dirait 300% du PIB aujourd'hui, pour compenser les propriétaires d'esclaves français d'avoir perdu leur propriété esclavagiste. Donc c'est un tribut militaire, quand même, qui est imposé par la France, qui menace à ce moment-là d'envahir l'île pour compenser les propriétaires d'esclaves. Donc c'est quand même un peu gonflé. Cette dette, elle va être traînée par Haïti comme un boulet jusqu'aux années 50. C'est-à-dire les derniers paiements sont faits en 1957 à la Banque de France, d'autres paiements avaient été faits à la Caisse des dépôts. Donc tout ça est parfaitement documenté. C'est-à-dire les données sont là, ça a été payé avec intérêt. Bon, moi je dis aujourd'hui, la France devrait effectivement rembourser, pourquoi pas la même somme, c'est-à-dire 300% du PIB à Haïti aujourd'hui, ça ferait 30 milliards environ d'euros. Bon, pour la France, c'est à peine plus de 1% de la dette publique actuelle, donc on est dans l'épaisseur du trait. Pour Haïti, ces 3 années de production, ça permet vraiment d'avoir un fonds, il faudrait une gouvernance spécifique permettant d'assurer les investissements dans les infrastructures, mais ça permet vraiment un nouveau départ, et puis ça permettrait symboliquement de montrer qu'on est capable, sur des questions comme ça, de reconnaître que ce qui a été fait est vraiment une injustice historique majeure. Ce sont des paiements bien documentés qui ont été faits jusqu'aux années 50, 1950. Donc quand on dit c'est trop ancien, alors qu'il y a des spoliations effectuées pendant la Seconde Guerre mondiale ou même parfois pendant la Première Guerre mondiale, sur lesquelles on a encore aujourd'hui des indemnités, et d'ailleurs pour de bonnes raisons, mais simplement si vous faites aujourd'hui des commissions pour des spoliations pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que par contre là, sur ces paiements à la France d'Haïti en 1950, vous dites c'est trop ancien, vous créez un sentiment de deux poids, deux mesures qui rend très compliqué ensuite la construction d'un futur commun et de normes de justice universelles.
Alors, il y a toujours sur cette question de la réparation la situation des États africains. Des États africains qui ont d'abord été victimes de la traite négrière, puis ensuite pillés du temps des colonies, jusque dans les années 60, avant d'être ensuite placés dans une position de dépendance vis-à-vis de leurs anciens colonisateurs. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une nécessité de réparation? Est-ce que la réparation, elle ne peut pas prendre la forme d'une annulation de dette partielle ou totale?
Bon, le cas d'Haïti est plus simple parce qu'il y a cette dette d'État à État qui est plus simple. Sur les dommages qui ont été infligés par le colonialisme, par l'esclavagisme, ça va être difficile de faire tous les comptes détaillés par personne. Et puis, les personnes se sont mélangées. Il y a des gens qui ont des origines métissées, c'est très bien. Ça va être compliqué de faire dresser toutes les généalogies. Donc, je pense que le principal, il y a l'annulation de la dette, ça c'est certain. Mais pour ce qui est de prendre un nouveau départ, des sommes vraiment à investir pour l'avenir, parce que ça suffit pas. souvent d'annuler les dettes. Je pense que là, la bonne réponse, c'est celle que j'essayais d'indiquer tout à l'heure, c'est de dire, d'essayer de réfléchir à un système économique mondial où, à l'avenir, on partage notamment les recettes issues des acteurs économiques mondiaux les plus prospères, multinationales, milliardaires, pour donner à chacun, à chaque pays et à chacun, un droit minimum au développement, à l'éducation, à la santé. Donc, dans un certain nombre de cas, il faut réfléchir à des réparations explicites. C'est trop facile de fermer le dossier. Mais en même temps, il faut se tourner vers l'avenir où on essaie quand même de dépasser les origines de chacun et on essaie d'aller vers un droit au développement.
Thomas Piketty, parmi les cicatrices entre la France et les États africains, le franc CFA qui divise encore, quel regard vous portez sur l'abandon programmé de cette monnaie en Afrique de l'Ouest?
Le franc CFA, on sait les origines sont avec la banque du Sénégal qui justement avait été créée à la suite de l'abolition de 1848 pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Donc là, l'origine première du franc CFA est exactement liée à ce dont on parlait à l'instant. Et c'est vrai que de continuer d'appeler cette monnaie franc CFA en 2021, il y a une forme d'anomalie. C'est pas si facile, mais moi je pense que les discussions qui ont lieu actuellement en Afrique de l'Ouest sont des discussions très importantes qui nous concernent tous, parce qu'en fait, cette question de trouver des nouvelles formes de fédéralisme démocratique, régional, sont des questions qui se posent en Afrique de l'Ouest, en Europe, qui peuvent se poser au Moyen-Orient. Vous savez peut-être qu'un jour, la Ligue arabe sera une union arabe, aura un modèle de développement qui sera plus fédéral, plus démocratique, au lieu d'avoir toutes les ressources du pétrole dans des pays sans population, pendant que l'Égypte, avec 100 millions d'habitants, a un budget pour ses écoles ridicule par rapport à tout l'argent qui est dépensé stupidement dans les Émirats. Et donc, ce qui est discuté actuellement en Afrique de l'Ouest est très important. Il faut pas oublier que la CEDEAO, qui n'est pas l'Union monétaire, mais qui a développé des formes de coopération économique qui, par certains côtés, sont parfois plus avancées que l'Union européenne. Par exemple, il y a une règle pour ne pas avoir un taux d'impôt sur les sociétés en dessous de 20%. Rien que ça, l'Europe n'a pas été fichue de le faire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Les pays d'Afrique de l'Ouest peuvent réussir aussi à créer des formes de fédéralisme régional finalement plus intégrées, avec une vision plus sociale du développement, plus solidaire que ce qui a pu être fait, y compris en Union européenne. Donc c'est compliqué, il va falloir trouver des solutions, mais je pense que ce sont des débats fondamentaux.
Justement, l'intégration économique régionale, Julien.
Thomas Piketty, l'Afrique va mettre en place une zone de libre-échange continentale africaine. Ça a été décidé lors du sommet de Niamey en 2019. Est-ce que vous y voyez un outil d'émancipation qui va permettre la création de marchés intra-africains, ou est-ce que vous y voyez une avancée du capitalisme que vous dénoncez?
On peut pas avoir de libre-échange sans bien public et de libre-échange sans un minimum de socialisation des richesses, c'est-à-dire de mise en commun d'une partie des recettes. Concrètement, il faut un peu de fiscalité en commun qui va avec le libre-échange, des conditions minimales d'imposition sur les profits des sociétés. C'est-à-dire, si on fait du libre-échange pur, sans aucune condition, la libre circulation des capitaux, sans aucun impôt commun, sans aucune régulation commune, là, ce serait une erreur. Donc ça, ce modèle-là, vous savez, qui coince un peu l'Europe actuellement, parce que l'Europe s'est construite après-guerre, après son autodestruction de la période 1914-1945, s'est reconstruite sur le commerce, sans penser à la possibilité de règles fiscales, de règles sociales en commun, et aujourd'hui, ça fait partie des limites. Le Brexit, toutes la montée des mouvements identitaires dans les différents pays européens, je pense que c'est en partie la conséquence de ça. C'est-à-dire que si on ferme la discussion sur la politique économique et commerciale en disant il n'y a qu'une seule politique économique possible, c'est le libre-échange sans aucune condition. Les États n'ont pas le choix. La seule chose que les États contrôlent, ce sont leurs frontières. Après, faut pas s'étonner que 10 ans plus tard, tous les débats sont sur des histoires de garde-frontières et d'identité et de montée identitaire. Donc ça crée beaucoup de difficultés en Europe aujourd'hui. Donc il faut pas que l'Afrique fasse la même erreur. Donc je pense que, et beaucoup de gens poussent pour ça en Afrique, il faut que s'il y a de la circulation des biens, des services, de l'investissement, des personnes, parce qu'il n'y a pas que la circulation des capitaux, la circulation des personnes, parfois c'est plus important, il faut qu'il y ait derrière d'une ébauche d'un système fiscal commun, de budget commun, d'infrastructures communes sur des grands moyens de transport, sur les questions énergétiques, sur les questions d'université, d'éducation dont on parlait tout à l'heure dans votre reportage au Maroc. Donc voilà, le libre-échange, pourquoi pas, mais si ça vient avec un modèle de développement dont la question du commerce n'est qu'un des chapitres.
L'Afrique cherche à s'unir d'un point de vue économique. Elle a une force aussi, c'est sa croissance démographique. Force, vraiment, ou faiblesse ?
Je pense qu'à long terme, ce sera la force de l'Afrique. Mais c'est vrai que là, ce sont des défis qu'aucun pays n'a pu relever. C'est-à-dire que voilà, la France ou la Suède, le Royaume-Uni, ils sont très fiers de leur sécurité sociale, de leur État, mais n'ont jamais eu. Vous savez, la France, c'est un pays. Il y avait déjà 30 millions d'habitants au moment de la Révolution française. Il y en avait 40 en 1945. Oui, ça avait progressé, mais lentement. Hein. Mmh. Là, on est à 65. Bon, mais c'est plus facile de construire des infrastructures avec une population en fait quasi stable qui augmente de façon imperceptible que dans des pays qui multiplient par 10 leur population en 50 ans. Donc là, dans l'immédiat, ce sont évidemment des défis très difficiles, mais qu'il faut relever parce que de toute façon, personne ne sait influer. En partie, c'est déjà fait, et puis en partie, personne ne sait influer sur la natalité d'une façon démocratique, respectueuse des droits individuels. Alors après, il faut construire des possibilités de choix individuels, professionnels, éducatifs qui de fait conduit à une certaine stabilisation de la croissance démographique. Mais bon, là maintenant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de financer les infrastructures qui vont avec.
Thomas Piketty, il y a quelques semaines, la Banque mondiale a annoncé la fin de son classement Doing Business. C'était une référence importante pour de nombreux pays, notamment en Afrique, qui souhaitaient améliorer leur environnement des affaires. L'institution était accusée depuis quelques années de manipuler ce palmarès. Elle s'en défend. Est-ce qu'elle a eu raison d'y mettre un terme ?
C'est un sujet délicat sur les manipulations là sur la Chine sur la. Je pense que tous ces classements un peu qualitatifs se prêtent trop souvent en fait à des manipulations. C'est-à-dire que vous savez c'est comme ces enquêtes auprès des là c'était pas exactement ça mais souvent vous avez des enquêtes auprès de chefs d'entreprise voilà qu'est-ce que vous pensez de la politique du pays, est-ce que vous aimez bien Emmanuel Macron, ah bah oui il vient de supprimer mon impôt sur la fortune donc forcément je l'aime bien. Vous voyez c'est des trucs ça mesure pas forcément des choses vraiment fondamentales sur ce qui se passe vraiment dans le pays. Donc je pense qu'on a besoin d'indicateurs
factuels, combien de temps il faut pour avoir l'électricité, ces indicateurs là.
Je dis pas qu'aucun de ces indicateurs était intéressant. Je pense qu'il y en a certains qu'il faudrait reprendre, qu'il faudrait revoir. Mais disons, la philosophie générale des indicateurs doing business, il y a quand même souvent un biais sur ce qui plaît à certains groupes de businessmen, mais qui ne correspond pas forcément aux besoins de toute la population. Donc il faut des choses plus équilibrées. On a besoin d'indicateurs qui permettent, in fine, de mesurer comment l'ensemble de la population accède à l'éducation, accède à la santé. Enfin, il y a un besoin de transparence. Il y a une hypocrisie dans la question de l'accès aux services publics qu'on a dans beaucoup de pays africains, qu'on a aussi dans beaucoup de pays dits avancés ou riches, dans lesquels moi je le montre là dans mon livre. En France, vous allez avoir une partie des enfants d'une génération qui vont avoir 3 ou 4 fois plus de ressources éducatives publiques que les 50% les plus défavorisés, parce qu'on va mettre dans les grandes écoles l'accès préparatoire 3 fois plus d'investissements par tête que dans des étudiants de filières universitaires normales qui sont pourtant issus de milieu plus défavorisé en moyenne. Donc de façon générale, on a ce besoin de transparence sur les dépenses. Voilà, des indicateurs comme ça, on en a besoin parce qu'à nouveau, à long terme, c'est ça qui permet la prospérité collective.
Sujet d'actualité brûlante, si je puis me permettre, Thomas Piketty, le réchauffement climatique, l'Afrique en est surtout victime en étant assez peu responsable. Est-ce que l'Afrique est à la bonne place dans ce débat mondial qui va se matérialiser là à la COP26 dans quelques semaines à Glasgow?
Je pense qu'il n'y a pas de solution au réchauffement climatique sans un changement très profond du système économique et sans une réduction drastique des inégalités. C'est-à-dire les deux problèmes sont complètement liés. C'est-à-dire qu'on ne résoudra rien au réchauffement climatique si on prétend mettre à contribution les plus pauvres, les plus riches de la même façon, que ce soit au niveau des pays, c'est ce que on a voulu faire en France en début de quinquennat avec les augmentations de taxes carbone contre lesquelles se sont élevés les gilets jaunes. Il faut dire que les recettes de la taxe carbone allaient financer la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc là, tout le monde est devenu fou et l'augmentation de taxes carbone a été annulée. Mais c'est encore plus vrai au niveau international et au niveau nord-sud. C'est-à-dire qu'il faut rappeler, effectivement, comme vous le disiez, que les 50% les plus pauvres de la planète, les 50% qui émettent le moins de carbone sur la planète, qui sont en grande partie les mêmes, donc notamment en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, émettent au total moins de carbone que les 1% les plus riches de la carrière. Donc ce sont des estimations que maintenant, sur le site de la World Inequality Database, WID.world, on va publier chaque année, pays par pays, région par région du monde, qui permet de voir à quel point vous n'allez pas ensuite... vous rendez compte, enfin, vous avez 50% de la planète qui va subir les conséquences de ce qui, en fait, correspond aux émissions des 1% les plus riches, des 10% les plus riches, qui sont essentiellement aux États-Unis, en Europe. Donc, l'idée, par exemple, que vous allez avoir un marché carbone mondial ou une taxe carbone mondiale qui va demander des efforts proportionnels à tout le monde n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on a forcément besoin d'efforts beaucoup, beaucoup plus importants proportionnellement à ceux qui émettent... vous savez, l'émission moyenne actuellement en Afrique subsaharienne, par habitant, on est à 2, 3, 4 tonnes, mais souvent beaucoup moins. Et si vous prenez les 50% les plus pauvres à l'intérieur de ces pays-là, on est sur des émissions insignifiantes.
Mais en même temps, en Afrique, on a un développement industriel, des extractions minières, et puis certains pays, par exemple dans la région des deux Congos, qui vont interpeller la communauté internationale sur ces difficultés.
Non, mais entendons-nous bien. Tout le monde va devoir changer beaucoup de choses. Ça, je suis pas en train de dire que voilà, on peut tout continuer comme avant et c'est uniquement les pays riches et les plus riches des pays riches qui vont devoir changer. Évidemment qu'il y a des pratiques et des types d'exploitation et des types d'extraction qui d'abord, pour certaines, devront juste cesser tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie du pétrole, du gaz qu'il faut juste laisser dans le sol. Et puis il y a beaucoup d'autres extractions qui sont faites actuellement dans des conditions de pollution, de surutilisation. Des ressources qui ne peuvent plus continuer. Mais on ne pourra jamais réussir à convaincre qui que ce soit de faire des efforts, des changements, si on n'apporte pas la garantie absolue que les groupes ou les pays plus favorisés ne font pas des efforts eux-mêmes beaucoup plus significatifs. Donc à nouveau, on en revient à ce besoin très fort de justice des sociétés humaines qui, dans l'histoire, est cette force qui conduit, qui finit, malgré tout, par conduire à plus d'égalité. Et ce mouvement doit continuer.
Toute dernière question, qui n'a presque rien à voir avec l'Afrique. Cette campagne présidentielle en France, elle vous plaît? Elle vous plaît pas? Vous la voyez comment?
Non, le délire identitaire, enfin complètement fou. Vous vous rendez compte, là quand même, on a maintenant des candidats qui prétendent qu'ils vont régler les problèmes du pays en changeant les prénoms de millions de personnes. Et ensuite, il faudra aussi changer les noms de famille, parce que les discriminations, elles sont les noms de famille. Et si après avoir changé les prénoms, les noms de famille, ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on fait? On paye de la chirurgie esthétique à tout le monde. Enfin, on est quand même à un niveau de délire, enfin de bêtise. Donc à un moment, si on peut pas juste affronter le racisme, en l'occurrence les discriminations comme elles existent, qui effectivement se fondent sur les prénoms, le nom, l'apparence, mais on va pas les changer en changeant les prénoms, les noms, l'apparence. On va les changer en arrêtant que les gens soient racistes. Donc d'abord en mesurant la discrimination année après année dans les différents secteurs. Voilà, on a besoin de solutions pratiques face à des évolutions. Oui, les populations se mélangent, se diversifient. Bon, c'est comme ça. Ça va pas s'arrêter demain, quoi qu'en pensent certains.
Ça, c'est pour la droite de la droite. Très rapidement, la gauche.
La gauche, elle a besoin de s'unir. C'est évident. C'est-à-dire que ce qui sépare les différents leaders de gauche, je dis pas que c'est insignifiant, mais disons par rapport à ce qui les rassemble et par rapport à ce qui les sépare de l'extrême droite et puis de la droite et du soi-disant centre droit au gouvernement qui en fait court vers l'extrême droite sur toutes ces questions, enfin c'est complètement fou là. On risque de se retrouver à une situation un peu comme aux élections régionales en Île-de-France, pour ceux qui ont suivi, où vous aviez trois listes autour de 10% et les électeurs ils font quoi? Ils tirent à pile ou face. Donc bon, moi avant de tirer à pile ou face, ce que je ferai comme tout le monde, hein, parce qu'il faudra bien, si on en est réduit là, j'en appelle, j'espère que voilà, ces candidats vont se réunir autour d'un seul candidat ou d'une seule candidate pour faire face aux défis du moment.
C'est bien, on n'a cité aucun nom. Merci infiniment Thomas Piketty de nous avoir accompagnés pendant cette émission.
Merci à vous.
Je rappelle votre livre, Une brève histoire de l'égalité aux éditions du Seuil, le grand invité de l'économie, RFI, Jeune Afrique, à retrouver en vidéo sur les sites internet de RFI et de Jeune Afrique. Merci Julien Clémenceau. Merci à Guillaume Munier pour la réalisation. À la semaine prochaine. Nous serons à Montpellier où se tiendra le nouveau sommet Afrique-France. On y parlera des diasporas, leurs rapports et leurs difficultés pour relever les défis économiques sur le continent africain. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Littérature sans